Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux sabbat, reposant et inspirant. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières n'allaient pas très loin? Peut-être qu'elles ne dépassaient pas le plafond de nos chambres. Les mots ne viennent pas, ou au contraire les mots viennent, mais ils n'ont pas beaucoup de saveur, ou ils sont un peu vides de sens. Je pense que cela nous arrive à tous, de passer par des moments où on se sent moins proche de Dieu, peut-être. La prière est non seulement notre outil de communication avec notre Père Céleste, elle est aussi un élément déterminant de notre relation avec notre Créateur. Et cette relation fonctionne dans les deux sens. Nos prières ne sont pas un simple monologue. Alors si les prières sont notre ligne directe avec Dieu, pourquoi semblent-elles parfois plus compliquées, plus difficiles? Comment prier? Comment prier afin que nos mots, ce que nous disons, notre conversation avec notre Père ait du sens, soit profonde? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, lors de ce sermon. Nous vivons dans un monde où la communication est omniprésente. Et c'est vraiment paradoxal, mais la communication entre Dieu et le monde est complètement coupée. Elle est inexistante. Le monde ayant rejeté Dieu et ses voies, la manière de vivre divine, le monde ne connaît pas. Le monde est de plus en plus corrompu. L'attitude du monde est de plus en plus égoïste. Les incertitudes sur le futur, même à court terme, s'accumulent. Allons à 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, le chapitre 3, et des versets 1 à 5. 2 Timothée, le chapitre 3, et les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne reste pas en leur compagnie. Je crois que nous venons de lire une description assez précise du monde dans lequel nous vivons. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, nous met en garde. De telles choses vont arriver. De telles choses arrivent maintenant. Le monde est rempli de distractions, que ce soit la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux. Il y a tellement de versions de réseaux sociaux. Combien de temps passons-nous à nous distraire? Comment être proche de Dieu dans ces circonstances, lorsqu'autour de nous tout est fait pour nous distraire? Une des clés est la prière. La prière fervente, la prière régulière qui vient du cœur. Jésus-Christ était constamment en contact avec notre Père. Et en ce faisant, il marquait une séparation claire entre le monde, qui est physique, et le céleste. Et le monde ne l'a pas connu, il n'a pas reconnu Jésus-Christ quand il est venu. Malgré cette opposition, Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu pour donner sa vie pour nous, pour tous ceux qui l'accepteront en tant que sauveur et voudront marcher dans ses voies, lui obéir. Comme Jésus-Christ est venu dans le monde, nous aussi, nous vivons dans le monde. Nous n'avons pas le choix. Il nous dit de sortir du monde, de ne pas agir comme le monde le fait, mais nous vivons dans le monde. Nous ne partageons pas les normes du monde ou la vision qu'ils ont. 1 Jean 2,15, s'il vous plaît. Allons à 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 15. 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ils ne vont pas ensemble. » Vous savez, tout comme Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, si nous n'aimons pas le monde et ses voies, ses valeurs, bien nous rencontrerons de l'adversité. Nous ferons face à des oppositions, car nos valeurs ne sont pas les mêmes. Les valeurs de ce monde sont contraires aux valeurs de Dieu. Alors comment pouvons-nous persévérer? Qu'est-ce qui peut nous aider? Que dit Jésus-Christ? Matthieu, s'il vous plaît. Reportons-nous au livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26. Et le verset 41. Matthieu 26 et le verset 41. Matthieu 26 et le verset 41, je cite. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le monde est plein de distractions, le monde est plein de tentations. Veillez. Et priez. Voilà les recommandations de Jésus-Christ. Nous qui vivons dans ce monde, veillez, et priez. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire dévier de notre appel et qui peuvent nous faire perdre du temps, un temps précieux. Éphésiens 5, 16 nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Passons du temps à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Une manière de racheter du temps, c'est de prier. Du temps passé avec notre Créateur, c'est du temps que nous passons dans le bon sens. Mais la question est celle-ci. Comment devrions-nous prier? Comment devons-nous prier? Et il s'agit du sujet de ce sermon. Et en voici le titre. Une attitude sincère dans nos prières. Une attitude sincère dans nos prières. Reportons-nous au livre de Luc, s'il vous plaît. Luc, le chapitre 11. Luc, le chapitre 11. Et le verset 1. Luc 11 et le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ici, les disciples de Jésus-Christ vinrent lui demander « Comment prier ?» Et lorsque nous posons la question de « Comment prier ?», ce n'est pas uniquement les mots, les paroles que l'on dit. C'est quelque chose de plus profond. Voyons la réponse de Jésus-Christ. Nous garderons ça pour un peu plus tard, mais voyons la réponse de Jésus-Christ dans Matthieu. Allons dans Matthieu pour voir la réponse complète, la prière modèle. Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6, s'il vous plaît, les versets 9 à 13. Matthieu, le chapitre 6, et les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On commence par Dieu et lui rendre gloire. Tout vient de lui. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ici, nous trouvons ce que l'on appelle communément la prière modèle, ou la structure principale de ce que nous devrions inclure dans nos prières, les sujets à aborder avec Dieu. C'est important d'utiliser cette structure. C'est ce que Jésus-Christ nous dit, ce sont ses paroles. Les mots que nous employons sont importants, il y a des sujets à aborder. Et il y en a d'autres. Nous pouvons prier pour la protection de nos proches, notre propre protection. Nous pouvons demander à Dieu de renouveler en nous son Saint-Esprit. Nous pouvons prier pour nos frères et sœurs, nous devons prier pour nos frères et sœurs, ceux qui souffrent particulièrement. Nous pouvons demander à Dieu de nous revêtir de l'armure spirituelle. Nous pouvons prier pour la paix à Jérusalem. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons prier. Mais vous voyez, ce dont Jésus-Christ parle dans Matthieu 6 est une structure, une liste de sujets à approfondir dans nos prières. Parlons un peu maintenant de comment. Pas simplement des mots, mais du comment dans ce message. Pas simplement du contenu. Comment nous demandons? En d'autres mots, quelle est notre attitude lorsque nous prions? Mais avant cela, voyons un petit peu ce qui peut faire la différence, ce qui peut être un obstacle à nos prières. Jacques 4, 3, s'il vous plaît. Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Jacques, le chapitre 4, et le verset 3. Il y a toute une série d'obstacles qui peuvent nous empêcher d'arriver, de nous approcher du trône de Dieu. Voyons quelques-uns de ces obstacles. Bon, voici un premier. Dans Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques s'adresse à l'Église. Un premier obstacle à nos prières est de mal demander, avec de mauvais motifs. Lorsque nous demandons certaines choses à Dieu, quelle est la raison? Quelle est notre motivation sous-jacente? Quels sont nos motifs? Sont-ils bons ou sont-ils mauvais? Si ce qui nous motive n'est pas bon, nous ne recevrons pas. C'est aussi simple que cela. Nos prières deviennent insignifiantes aux yeux de Dieu. Il faut qu'on en ait conscience, frères et sœurs. Nous pourrions peut-être faire une introspection et nous analyser nous-mêmes, honnêtement, et de voir pour quelles raisons nous demandons quelque chose à Dieu. Voir les raisons pour lesquelles nous disons certaines choses à Dieu. Et si on se rend compte qu'il y a un motif qui n'est pas valable, que ce n'est pas pour une bonne raison, bien, laissons-la de côté. Allons à Ésaïe pour voir un autre obstacle à nos prières. Ésaïe, le chapitre 59. Ésaïe, le chapitre 59 et le verset 2. Ésaïe 59 et le verset 2. Et je cite, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voici un autre obstacle à nos prières, le péché. Ils sont un frein à des prières sincères. Ils sont un frein à ce que Dieu puisse entendre nos prières. Si nous ne nous repentons pas d'un péché, Dieu ne nous écoute simplement pas. S'éloigner du péché, avoir une attitude repentante, une attitude repentante véritable, est donc une condition requise, une condition sine qua non pour pouvoir approcher le trône de grâce. Maintenant, nous savons que nous péchons tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans la chair, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Et il arrive que l'on tombe. Mais lorsque cela arrive, nous avons cette merveilleuse bénédiction d'être pardonnés lorsque nous nous repentons sincèrement et continuons dans cette repentance. Disons cela dans 1 Jean. 1 Jean. La première épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 1. 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 1. 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On essaie de ne pas pécher. On fait de notre mieux. Et si quelqu'un a péché, ça arrive. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui a donné sa vie pour nous, par le sang duquel nous sommes lavés de tout péché. Dieu est miséricordieux et il sait que nous tombons de temps en temps. Et il nous pardonne à chaque fois que nous nous repentons. Nous sommes lavés totalement de nos iniquités. Il les oublie, il les éloigne de nous, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est merveilleux de savoir que nous pouvons venir vers notre Père, que sa bonté nous pousse à la repentance et qu'il ouvre ses bras chaque fois que nous nous repentons sincèrement et que nous revenons vers lui. Sa miséricorde est merveilleuse. Quel Dieu compatissant nous avons. Allons à 1 Pierre. 1 Pierre, quelques pages auparavant. Voici un autre obstacle qui s'adresse spécifiquement au mari. 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voici une recommandation faite aux hommes en particulier. Ô Marie, la manière dont nous traitons nos épouses peut influencer nos prières, positivement ou négativement. C'est important d'en être conscient. Cela peut faire obstacle à nos prières si nous ne traitons pas bien nos épouses. Alors traitons-les bien. Considérons-les avec respect et amour, et afin que nos prières soient acceptées par notre Père. Il y a tellement d'autres obstacles que nous pourrions citer. Obstacles à nos prières. Le manque de foi. Nous devons nous approcher de Dieu et être certains qu'il existe. Assurés qu'il existe. Le manque de miséricorde envers notre prochain. Dieu veut que nous nous pardonnions l'un l'autre. Et premièrement, avant de venir prier envers Dieu, de lui demander ce dont nous avons besoin, Dieu nous dit, va et fais la paix avec ton frère. Faisons attention à nos motivations, à ce qu'il y a dans notre cœur, et faisons attention à ce qu'aucun obstacle ne vienne empêcher nos prières d'accéder au trône de grâce. Quelle est notre attitude lorsque nous prions? Quelle est notre attitude lorsque nous prions? Allons à Colossiens. Colossiens, le chapitre 4 et le verset 2. Colossiens, le chapitre 4 et le verset 2. Colossiens 4 et le verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ce verset est important. Il ne porte pas spécifiquement sur le contenu de nos prières, mais il interroge plutôt sur le comment dire les choses. Il met l'accent sur l'attitude. Dans la version en français courant, ce verset est rendu tel quel. Priez avec fidélité. Demeurez vigilant par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Avec fidélité, en étant vigilant. Ce sont les trois éléments que nous pouvons déceler dans ce verset. Persévérer, veiller et être reconnaissant. Parlons-en plus en détail. Le premier élément, persévérons, et persévérons avec fidélité dans la prière. Ce verbe persévérer vient du grec proskartere. Et ce mot signifie continuer avec dévotion, persévérer sincèrement, diligemment, constamment, avec ferveur. Cela implique la notion de régularité et de continuité. Lorsque l'on voit ce que le mot grec signifie, nous comprenons mieux le sens profond de ce verset. Persévérer avec ferveur de tout notre cœur, de tout notre cœur. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. La prière n'est pas juste du temps passé dans un monologue. C'est le temps que l'on consacre, ce que l'on dit, auquel on ajoute la sincérité qui vient du cœur. Elles vont ensemble. En d'autres termes, nos prières doivent venir du fond de notre cœur. Dieu regarde au cœur. Voyons cela dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 16. Et les versets 6 et 7. Ici, Samuel est envoyé pour oindre David après que Saul a été rejeté. Et je lis ici au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, les frères de David n'était pas là, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Samuel voit Eliab, probablement de grande stature, impressionnant, et il pense que c'est lui qui doit oindre. Et verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Ce n'est pas lui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là que ses yeux sont fixés. Qu'y a-t-il dans notre cœur ? Samuel était persuadé en voyant Eliab qu'il était le prochain roi d'Israël. Mais Dieu regardait au cœur. Et il a vu ce qui était dans le cœur de David, ses motivations. Et Dieu dira de lui plus tard qu'il est un homme selon son cœur, malgré les erreurs que David a commises dans sa vie. Nous commettons tous des erreurs. Mais il a vu ce qui le motivait. Puisse notre Père dire la même chose de nous un jour. Être un homme selon le cœur de Dieu. C'est donc sur notre cœur que les regards de notre Créateur sont posés. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5:17 « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit sans arrêt prier 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour ? Non. Restons en communication avec Dieu, tout comme Jésus-Christ l'était, tout comme Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Dès que nous en avons une occasion, nous pouvons le prier, prier Dieu. Faisons preuve de régularité, je pense que c'est un peu la signification de ce verset, de régularité, de continuité. Continuons dans la prière. Ne nous coupons pas de notre Père. C'est vraiment ce que ce verset signifie. C'est ce qu'implique le mot persévérer. Allons à Éphésiens. Reportons-nous à Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 18. Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens 6 et le verset 18. Éphésiens 6 et le verset 18. Après la description de l'armure spirituelle, Éphésiens 6, 18 lit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Prions-nous sincèrement pour nos frères et sœurs? Lisons dans la parole divine que les prières du juste sont puissantes, sont efficaces. Prions sincèrement pour notre prochain. Dieu entend nos prières sincères. Il ne fait pas la sourde oreille. Parfois, on pense cela, n'est-ce pas? Dieu ne nous répond pas, pas directement, pas rapidement. On attend une réponse instantanée. Dieu entend nos prières et il y répond de la meilleure des manières et en son temps, au bon moment. Parfois, on ne comprend pas directement. On ne comprend pas la nature de la réponse ou pourquoi cela prend un peu de temps. Dieu agit au bon moment. Allons à Psaume. Retournons dans l'Ancien Testament au livre des Psaumes et au chapitre 27. Psaume, le chapitre 27. Psaume, le chapitre 27. Psaume 27 et le verset 14. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La version en français courant rend ce verset comme suit. Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. Reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Parfois, il ne répond pas directement ou pas dans le laps de temps que nous espérions. Faisons-lui confiance. Attendons qu'il agisse patiemment, qu'il intervienne, qu'il nous délivre, qu'il délivre ceux qu'on aime. Nous voyons donc que nous devons prier avec régularité. C'est-à-dire souvent, c'est-à-dire tous les jours. Nous devons apprendre à être toujours en contact avec Dieu le Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus-Christ intercède pour nous, et parfois, lorsque quelque chose arrive, notre réaction n'est pas de se tourner vers Dieu directement. Tournons-nous vers Dieu directement, frères et sœurs. Voyons l'exemple de Daniel. Daniel est un exemple pour nous. Daniel priait 3 fois par jour. Et il prenait le temps de le faire, même dans l'adversité, même au péril de sa vie. Si vous vous rappelez, il a été jeté dans la fosse aux lions parce que le décret disait qu'il ne pouvait pas prier, adorer un autre Dieu. Mais Daniel savait où est Dieu, où le trouver et quelle est sa priorité. Et il priait Dieu. Nous n'avons pas d'indication claire dans la Bible quant à la longueur de nos prières. Les prières sont parfois courtes. On voit l'exemple de Pierre, il dit « Seigneur, sauve-moi ». Elles peuvent être longues. Jésus-Christ a prié longuement. Ce qui compte, c'est que nos prières soient sincères et ne soient pas simplement une répétition de mots auxquels on ne réfléchit pas vraiment, auxquels on ne pense pas vraiment, par habitude. Ecclésiaste 5, verset 2 nous dit « Que tes paroles soient peu nombreuses. » Que tes paroles soient peu nombreuses. Les prières ne doivent pas nécessairement être longues, mais elles doivent être sincères. Elles doivent être sincères. Quand quelque chose arrive, on peut directement se tourner vers Dieu et lui demander directement de nous aider. Et Dieu nous entend. Matthieu 6, s'il vous plaît. Matthieu 6, les versets 7 et 8. Matthieu, le chapitre 6, et les versets 7 et 8. On retourne dans le chapitre 6 de Matthieu. Matthieu 6, les versets 7 et 8. Jésus-Christ nous dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » C'est un peu la méthode Coé. Et on pense que ça va fonctionner. Jésus-Christ nous dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. » Avant même que nous lui demandions, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Prier est vital, mais la manière dont nous prions est vraiment très importante. Vous savez, ici, ces instructions que Jésus-Christ nous donne, et c'est intéressant, il nous donne ces instructions que nous venons de lire juste avant de nous donner la prière modèle. Donc c'est important. Il ne faut pas juste une liste de mots qui soit trop longue et qui soit vide de sens. Allons à Jérémie. Jérémie 29. Retournons dans l'Ancien Testament. Jérémie, le chapitre 29. Jérémie, le chapitre 29. Jérémie, le chapitre 29 et les versets 11 à 13. Jérémie 29, les versets 11 à 13. Et je cite, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quel beau verset à lire quand nous traversons des épreuves. Verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voilà le secret. Voilà le secret, frères et sœurs, pour avoir des prières sincères. Recherchons Dieu de tout notre cœur. Engageons notre cœur dans nos prières. Lorsque nous prions, disons à Dieu ce que nous avons dans nos cœurs. Et Dieu nous dit que nous le trouverons. Il nous écoutera. Et ça, c'est une promesse. C'est donc ce qui intéresse Dieu, notre cœur. Comment est notre cœur? Est-il proche de Dieu? Loin de Dieu? Moyennement proche ou loin de Dieu? Prions de tout notre cœur, frères et sœurs. Soyons proches de lui. Et recherchons-le de tout notre cœur. C'est ce qu'il nous commande quand nous voyons les deux commandements dont Jésus-Christ parle. Le premier est comme ceci. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez, cela rejoint le commandement que Jésus-Christ nous donne. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Allons au deuxième point que nous vous trouvons dans Colossiens 4, verset 2. Et ce deuxième point, c'est « Veillons ». Il nous est demandé de veiller. Ce verset se traduit parfois par « Soyez alerte ». Soyez alerte. Veillez. Reportons-nous à 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7. 1 Pierre 4 et le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre nous dit d'être sages, c'est-à-dire de garder notre esprit sain, d'être dans un bon état d'esprit, modéré, réfléchi, sérieux, raisonnable. Il nous dit que c'est d'être sobre, concentré pour passer du temps à la prière. La prière est un outil magnifique pour communiquer avec notre Père Céleste. Mais il y a une façon d'approcher notre Créateur. Rapprochons-nous parfois Dieu de manière un peu désinvolte, de manière un peu trop décontractée? Lorsque nous prions, nous nous adressons au Maître de l'univers. Psaume 33, verset 8. Allons à Psaume 33, verset 8. Psaume, le chapitre 33 et le verset 8. Psaume 33 et le verset 8. Psaume 33 et le verset 8. La manière dont nous approchons Dieu est importante. Vous savez, je pense que si nous nous approchons d'un roi, d'une reine, d'un président, nous faisons attention à comment nous les approchons. Encore plus avec Dieu. Psaume 33, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. C'est de cette manière, pas par peur, que nous devrions approcher notre Père, mais par respect, un respect profond. Est-ce de cette manière donc que nous prions? Faisons attention à la manière dont nous approchons notre Père. Regardons comment David le faisait. Allons à 1 Chronique, le chapitre 29. 1 Chronique, le chapitre 29, et les versets 11 à 13. Une prière de David. 1 Chronique, chapitre 29, et les versets 11 à 13. Et je cite. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Quel exemple du roi David, quel exemple d'approche de notre Père. Quelle reconnaissance de la toute-puissance divine. Voilà comment David approchait notre Père. En le louant, en le reconnaissant. Faisons de même, frères et sœurs. Faisons de même. Allons à Marc et voyons un autre élément de l'élément veillé. Marc, le chapitre 13. Marc, le chapitre 13. Vers la fin du livre de Marc. Marc 13, et les versets 33 à 37 sont les paroles de Jésus-Christ. Marc 13, 33 à 37. Jésus-Christ nous dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Et nous entrons ici dans le vif du sujet pour ce mot « veiller ». Jésus-Christ associe les mots « veiller » et « prier » en tout temps. Soyons attentifs à notre condition spirituelle, frères et sœurs. Sommes-nous proches de Dieu? Sommes-nous suffisamment proches de Dieu? Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes. Dieu veut que nous soyons bouillants pour lui, pleins de zèle. Veiller signifie être attentif, être prêt, être éveillé, c'est-à-dire sérieux. Soyons attentifs à notre condition spirituelle. Soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous dans le monde. et prions pour que Dieu intervienne, pour que Dieu nous protège et pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Ayons une approche personnelle dans nos prières. Que se passe-t-il dans ma vie? Que se passe-t-il dans la vie de mes proches? Que se passe-t-il dans le monde? Veillons à tout cela. Dieu veut que nous en parlions avec lui, par la prière. Il veut que nous lui parlions de ce qui nous affecte, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous attriste. Ne nous endormons pas, frères et sœurs. Ayons ce sens de l'urgence. Allons maintenant au troisième élément de ce que nous avons vu dans Colossiens 4, verset 2. Et ce troisième élément que l'on trouve dans ce verset est d'être reconnaissant. Soyons reconnaissants. Psaume, s'il vous plaît. Nous retournons au livre des psaumes. Psaume 95 et le verset 2. Psaume 95 et le verset 2. Psaume 95 et le verset 2. Allons en devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Cela rejoint la manière dont le roi David approchait Dieu. Louer Dieu, c'est le remercier. C'est reconnaître ce qu'il fait, qu'il est présent dans notre vie, ce qu'il nous donne. Et c'est être reconnaissant. Lorsque nous prions, par quoi commençons-nous? Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, passons-nous quelques instants pour le remercier. Si nous comparons le temps que nous passons à dire merci à Dieu et le temps que nous passons à lui demander ce dont nous avons besoin, on passe du temps à dire merci pour 10% de notre prière ou peut-être moins. Quelle gratitude lui témoignons-nous? Comment commençons nos prières? Commençons-nous nos prières? Remercions-nous, frères et sœurs, premièrement. Et on peut le remercier pour tellement de choses. Pour son sacrifice, le plan merveilleux qu'il a créé pour nous. Ce qu'il nous donne tous les jours de notre vie, notre pain quotidien. Vous savez, faire preuve de gratitude, dire merci à Dieu dans nos prières, cela nous aide à voir la main de Dieu agissant dans nos vies. Ça le rend plus vrai dans nos vies, plus réel, plus présent. Parce qu'il agit dans nos vies et nous le voyons et nous le remercions pour cela. 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Allons à 1 Thessaloniciens. Nous en avons parlé brièvement plus tôt lors de ce message. Nous allons lire un peu plus cette fois-ci. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et les versets 17 et 18. Priez sans cesse, à tout moment, dès qu'on en a l'occasion. Et le verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Envers lui, envers notre prochain également, quand nous recevons de l'aide de notre prochain, faisons preuve de gratitude. Il veut que nous voyons sa main, qu'il agit dans nos vies, que nous réalisions ce qu'il prépare pour nous. Un futur, c'est ce que nous avons lu auparavant. Un futur, un espoir. Maintenant, ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique, n'est-ce pas? Lorsque la vie est difficile. Nous passons tous par des moments difficiles, par des épreuves, par des difficultés. Et dans ces moments-là, c'est simplement plus difficile de voir le positif. C'est plus difficile de voir les bénédictions. C'est difficile de voir la main agissante de Dieu dans nos vies. Et alors, il est plus difficile de faire preuve de gratitude, tout simplement. Allons à Jacques. Jacques, le chapitre 1. Jacques nous parle des épreuves. Jacques nous parle des épreuves. Jacques 1. Jacques 1, les versets 2 à 4. Jacques 1, et les versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce n'est pas facile de se réjouir dans les épreuves. Ce n'est pas facile. Mais nous savons que nous sommes le peuple de Dieu. Nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes tous dans le même bateau et nous connaissons tous des épreuves. Par beaucoup d'épreuves, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et l'attitude de Jésus-Christ, qu'il nous a montré juste avant sa crucifixion, est merveilleuse. Allons à Luc 22. Luc 22. Et voyons ce qu'il dit à ses disciples. Luc 22, verset 15. Luc 22, verset 15. Luc 22, verset 15. Il leur dit, Jésus-Christ leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Quelle vision! Jésus-Christ avait ses yeux fixés sur notre Père, sur le but, sur le plan de Dieu, sur son royaume, sur sa mission et sur la finalité du merveilleux plan divin. Il voulait prendre cette Pâque avec ses disciples. Il en était heureux. Et juste avant, cela juste avant qu'il soit, crucifié. Nous avons besoin de cette même vision. Nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de pouvoir nous projeter dans l'avenir et voir ce que Dieu a en réserve pour nous. Cette vision nous permet de nous donner la force d'endurer dans les épreuves et dans les difficultés. Cette vision nous permet d'être proche de Dieu, de voir sa main dans nos vies. Être proche de Dieu par la prière nous permet de tenir bon dans les moments difficiles. Prions, frères et sœurs. N'abandonnons pas la prière. Retournons à Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. Nous approchons de la fin de ce sermon. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3, s'il vous plaît. Colossiens 3. Colossiens 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà qui est un bon résumé de ce qu'est la véritable vie chrétienne, vous ne pensez pas? Dans ses épîtres, l'apôtre Paul met l'accent sur la gratitude. Il nous exhorte à avoir cette attitude de reconnaissance envers Dieu. L'apôtre Paul était reconnaissant lui-même. On peut le percevoir dans ses écritures. Il était attentionné. Il se souciait de son prochain. C'est ce dont nous pouvons nous rappeler ou nous pouvons penser quand nous rappelons de l'apôtre Paul. En conclusion, frères et sœurs, nous avons vu aujourd'hui que le contenu de nos prières est important Jésus-Christ nous a donné une structure sur laquelle nous nous basons. Mais il y a plus, la sincérité dans nos prières, prier de tout notre cœur. Et c'est peut-être là le plus important que les mots que nous employons. Dieu nous encourage à être dévoués à la prière. Dieu nous encourage à se connecter à Dieu en tout temps, via des prières sincères qui viennent du cœur. Dieu nous encourage à veiller, à être réfléchi, sérieux, sobre, vigilant sur notre propre santé spirituelle, sur ce qui se passe dans le monde, autour de nous. Dieu nous encourage à être reconnaissant, même lorsque ce n'est pas évident. Si nous appliquons ces principes, frères et sœurs, dans nos prières quotidiennes, si nous apprenons comment réellement prier du fond du cœur, Dieu va s'approcher de nous. Dieu va nous écouter et il va nous soutenir et nous aider.